Chapitre 11e. 6 mois après cet arrangement, un étranger traversant Rocheblanche n'aurait pu se douter que le pillage et la mort eussent passé par là. Il ne restait pas d'autre trace que les habits de deuil que portait Berthe et une douce tristesse au fond des cœurs. On avait fait disparaître les empreintes de la sédition, réparé les clôtures, rétabli les portes, relevé la haie. La ferme avait repris son allure de travail et d'activité, et le château son aspect calme et souriant. Jean s'était transformé. Il avait, pour nous servir de l'expression évangélique, dépouillé le vieil homme. Le premier debout et le dernier couché, il donnait l'exemple de l'ardeur au travail et de la bonne humeur. Antoine l'avait mis au courant de l'agriculture, et l'intelligence droite et nette de Jean en avait bien vite saisi le simple mécanisme. Mais à ce mécanisme un peu routinier des campagnes, il avait promptement substitué les améliorations de la science agronomique en leur donnant pour modérateur l'expérience pratique de son frère. La bienfaisante influence de cette existence laborieuse n'avait pas tardé à se faire sentir. Les aspérités du caractère de Jean en avaient été comme effacées. Son esprit, forcé de s'attacher à des choses réelles, perdit bientôt l'habitude des rêveries et avec elle, les délétères inspirations de l'isolement, de l'oisiveté et du découragement. Il comprenait qu'il y a dans la vie un emploi plus honorable à faire de son intelligence et de ses forces que celui de les dépenser en stériles imprécations, en vagabondes promenades, en lâches regrets. Il se cramponna au travail de tous les jours, comme un nageur épuisé à la branche qui pend sur l'eau, et le travail le sauva. Tout surpris de cette existence nouvelle, Lou suivait son maître dans les sillons, tournant parfois vers la forêt un regard attristé, humant l'air, flairant l'herbe, et poussant de légers aboiements, quand la brise portait à son odorat subtil les émanations exhalées des flancs agités des cerfs. Il y avait des jours où le brave chien, n'y tenant plus, partait le nez au vent, gagnait les bois et disparaissait. Ses aboiements sonores retentissaient tantôt dans les profondeurs secrètes des forêts, tantôt sur leurs lisières clairsemées. Puis, le soir, harassé, haletant, traînant ses fortes jambes meurtries aux racines, la queue pendante, les flancs épuisés, la gorge aride, il venait se coucher aux pieds de Jean. Quand il se sentit bien maître de lui et rompu aux travaux des champs, Jean consentit à reprendre son fusil, depuis si longtemps immobile sur le râtelier, et partit pour la chasse. Ce jour-là, Lou hurla de joie. Combien cette chasse, depuis lors souvent renouvelée, le dimanche, lui parut différente de celle qu'il avait naguère entraînée loin des bordes et retenue dans les bois, seul, errant, attentif à tous les bruits, inquiet, sauvage et morne. Alors il marchait triste, prêt à fuir, et n'avait pour dormir que la hutte d'un charbonnier ou le pauvre toit d'un bûcheron, irrité contre tout le monde, irrité surtout contre lui-même. À présent, il allait libre et joyeux, l'esprit content, le cœur allègre, et ne rencontrant partout que des visages bienveillants comme il était bienveillant à tous. La force et l'énergie de Jean l'avaient fait craindre. Sa douceur et sa justice le firent aimer. Chose étrange et bien rare. Quoique fils de paysan et paysan lui-même, en ce sens qu'il ne dédaignait pas de prendre la faux, la charrue ou la pioche de ses robustes mains, l'autorité dont il était revêtu semblait légitime à ceux sur lesquels il l'exerçait. Fermier et journalier s'y soumettaient comme à un droit, légitimement acquis, et jamais fonctions ne furent plus facilement exercées que celles que Jean remplissait. Madame de Puiseux lui avait assigné pour logement un pavillon situé à quelques centaines de pas du château, dont il n'était séparé que par un verger. C'était dans ce pavillon que Jean recevait les métayers et passait les marchés. C'était là aussi qu'il travaillait. Depuis que Jean habitait dans son voisinage, Clairette était la moitié du jour occupée à courir et à jouer avec les enfants dans ce verger qu'elle trouvait le plus beau du monde. Elle chantait comme l'alouette, s'approchait, sous mille prétextes, des fenêtres du pavillon, pour une balle perdue, pour un cerf-volant pris dans les branches, pour une raquette oubliée, et finissait toujours par attraper un bout de conversation avec Jean, qu'elle appelait le parrain du petit Pierre, quoiqu'il n'en fût rien. Et ce surnom, tous les enfants avaient fini par le lui donner. Au temps des fleurs et des fruits, Clairette, qui avait pris l'administration du verger, s'arrangeait si bien que Jean ne pouvait s'empêcher de descendre, ou tout au moins de se mettre à la fenêtre. C'était tantôt un bouquet de fleurs des champs qui tombait sur son épaule, tantôt une pomme qui roulait à ses pieds, tantôt une poignée de cerises qui le mitraillait. Les trois enfants, que Clairette avait presque toujours suspendus à ses mains, lui servait de tirailleur et ouvrait le feu. Jean aimait les enfants. Quel moyen de résister à leurs bruyantes provocations, à leurs aimables agaceries? Il ramassait fleurs et cerises et les leur envoyait. C'était alors un combat champêtre, dont le bruit et la gaieté faisaient retentir le verger. Clairette, qui n'était guère plus sérieuse que les marmots dont elle partageait les jeux, prenait sa part de la fusillade, et cette grande bataille finissait ordinairement par un assaut général, durant lequel l'assiégé tendait les bras à ses petits ennemis pour les faire entrer en vainqueur dans la place. Le contact journalier de Berthe avait adouci et comme arrondi les formes un peu vives et brusques de la petite paysanne. Avec cette souplesse d'esprit et ce don d'assimilation qui sont dans la nature de la femme, Clairette avait pris des manières, du langage et des habitudes de Madame de Puiseux, ce que son éducation première lui permettait d'en prendre. Cette transformation s'était faite en quelque sorte à son insu, et il en était résulté une grâce nouvelle qui, sans rien lui enlever de sa naïveté, donnait à la jeune mère un charme plus harmonieux. On aurait dit que le mariage avait passé sur elle comme la brise sur une fleur, sans lui faire perdre son parfum. C'était la même innocence et la même candeur, et quand au matin, plus vermeille que l'aube, elle courait vers le pavillon, portant son fils entre ses bras, il y avait en elle tant de confiance ingénue que nul n'eût osé sourire en la voyant. La sympathie qui unissait de tout temps Jean et Clairette s'était augmentée progressivement, et les grâces nouvelles que le séjour de Rocheblanche avait développées chez la petite veuve n'y avaient pas peu contribué. La mélancolie qui s'attachait au cœur de Jean, comme ces vapeurs grises qu'on voit ramper sur les coteaux après l'orage, s'adoucissait au contact de cette gaieté charmante. Depuis que le braconnier était installé au pavillon, son amour pour Madame de Puiseux s'était adouci d'un sentiment d'admiration respectueuse. La franchise pleine de noblesse qu'elle avait montrée à l'audience, la dignité sereine qui la soutint après l'irréparable et double malheur dont elle avait été frappée, la constance avec laquelle, jeune, belle et sollicitée par des influences étrangères, elle n'avait pas cessé de le défendre et de l'aimer. Tout enfin, cette bonté, cette résignation, ce courage et cette profonde sensibilité qui s'épanchait quelquefois à la surface de son âme, comme une eau limpide et bienfaisante sur un champ fertile, le remplissait d'une tendresse sans bornes à l'épreuve de tous les dévouements. Il arrivait souvent que Jean, après une journée de travail, passait quelques heures auprès des deux veuves, entre leurs enfants, vives et saines créatures qui croissaient librement au soleil comme de jeunes arbrisseaux. Ces soirées s'écoulaient en paisibles conversations mêlées de badinages enfantins. Jean taillait des fusils, des sabres et des chevaux de bois pour les petits, ramassés autour de ses genoux. Clairette, plus remuante qu'un oiseau, trottait par la chambre ou le jardin. Berthe jouait du piano, chantait quelques romances du pays, ou racontait aux enfants quelque histoire surprenante, qui les faisait se tenir immobiles et ravis comme des bons hommes de carton. Puis, à l'heure où il fallait se séparer, on devait presque toujours prendre sur les genoux du braconnier, tantôt l'un, tantôt l'autre des enfants, profondément endormis. Un soir, au moment où la nuit s'approche, cette honnête famille d'amis était réunie devant le château, sur la pelouse qui descendait en s'inclinant vers le parc. Les trois enfants jouaient sur l'herbe piquée de milliers de fleurs. Ils tombaient, se relevaient et se poursuivaient comme de jeunes pinsons échappés du nid. Près d'eux, leur mère, assise sur le même tertre, regardait, par-dessus le parc et la Loire, les champs paisibles que la mélancolie du soir couvrait de sa douce majesté. Jean se tenait debout à côté d'elle. Ce spectacle, éternellement jeune et toujours nouveau dans sa sereine uniformité, pénétrait leurs âmes des mêmes sentiments de tendresse rêveuse et d'enthousiasme pieux. Depuis qu'elle vivait auprès de Madame de Puiseux, Clairette sentait et comprenait mieux la divine harmonie de ces tableaux qu'elle avait vus déjà bien souvent, mais qu'elle n'avait peut-être jamais regardés. Son esprit s'était ouvert aux mystérieuses beautés de la nature. Elle ne la traversait plus comme une étrangère. Elle avait appris à l'aimer. Les regards de Berthe allaient des campagnes et de l'horizon aux têtes blondes des enfants. Leurs rires éclatants interrompaient seuls le silence animé du crépuscule. Quelquefois, l'un d'eux se détournait de ses jeux, courait à sa mère, lui demandait un baiser, et plus capricieux qu'un fan, disparaissait avant même de l'avoir reçu. C'est à peine si Jean et ses compagnes échangeaient quelques rares paroles, tout de suite interrompues, écho de pensées intérieures qu'ils ne disaient pas, mais qu'ils entendaient. Cependant, la nuit était venue. Les enfants, à demi perdus dans cette vague obscurité qui succède au crépuscule, jouaient et riaient encore. L'un d'eux, la petite fille, plus fatiguée que ses frères, vint en tâtonnant jusqu'auprès de Jean, qui s'était assis à deux pas de Berthe, se coucha dans l'herbe à ses pieds, posa sa tête sur les genoux de son ami et s'endormit. Berthe se leva. « Clairette, » dit-elle, « voici la nuit, il faut rappeler les enfants. » Claire fit ce que Berthe lui demandait, mais quand on voulut enlever la petite dormeuse, elle se cramponna aux jambes du braconnier, les yeux à demi clos par le sommeil. « Viens avec nous, » dit-elle, « tu es mon parrain. » Les yeux de Berthe et de Jean se rencontrèrent. « Pourquoi n'êtes-vous pas mon frère ?» dit Berthe doucement. « Au moins, ne nous séparerions-nous jamais ?» Et tandis que Jean couvrait la tête de l'enfant de ses deux mains, elle reprit, tout en s'adressant à Clairette, « Viens, ma petite sœur, et roule cet enfant dans ta mante pour qu'elle n'ait pas froid. » Clairette obéit, et des genoux du braconnier, la petite fille passa au bras de Clairette. Jean se sentit remué jusqu'au fond du cœur. Il suivit les deux femmes du regard, et en vit une qui, au moment de passer sous la porte du château, se retournait pour le saluer de la main. Était-ce Clairette? Était-ce Berthe? Un sentiment nouveau et jusque-là inconnu fit tressaillir le cœur de Jean. Ce fut pour lui comme une révélation. Il venait de désirer que ce fût Clairette. Cette nuit-là, Jean se promena longtemps sur la pelouse, demandant des inspirations à la solitude. Il confessa son cœur à cette partie de nous-mêmes qui reste toujours impassible au milieu même de nos plus violentes agitations et, plus calme, attendit le jour. À l'heure accoutumée, Clairette se glissa du côté du pavillon vers lequel la troupe mutine des enfants la précédait. Jean vint à elle et, la prenant par le bras, l'entraîna sous une allée de pommiers. L'ombre dansait sous leurs pas et les enfants riaient autour d'eux. Jean parla quelque temps à Clairette. Et Clairette l'écoutait les yeux baissés. Après qu'ils eurent fait un tour ou deux dans l'avenue, Jean s'arrêta. « Tu m'as entendu, ma petite Clairette, » dit-il. « Tu seras toujours mon amie. »« Veux-tu aussi être ma femme ?» Le cœur de Clairette sautait sous son fichu. « Votre amie, votre sœur, votre femme, tout ce que vous voudrez, » dit-elle. Jean prit Clairette dans ses bras et l'embrassa sur les deux joues. Clairette pleurait de joie. Ils entrèrent au château en se tenant par la main. « Voici deux fiancés qui vous arrivent, » dit Jean à Madame de Puiseux. « Votre petite sœur, comme vous dites, consent à devenir ma femme. »« Venez, mon frère. J'attends cette heure depuis 2 ans, » dit Berthe en se levant. Et, toute tremblante de joie, elle serra la main que lui tendait Jean. Ainsi s'achève Roche-Blanche, d'Amédée à Chartres.